L'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre. Dodécaphonique. Mise en scène. Production Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Lettre d'Adrien. Alors, il lui demande quel est le lien qui vous unit tous les deux. Jules lui dit, nous sommes amis depuis fort longtemps. Lorsqu'il était jeune, nous sommes rencontrés. Nous étions étudiants. On a beaucoup sympathisé, et voilà. Adrien reste fidèle à ses amis. C'est quelqu'un de très bien. Damien lui dit, « Lorsque j'étais enfant, je pensais qu'Adrien faisait partie de ma famille et qu'il était, enfin, comme mon oncle. » Je lui dis, « Ne fais pas partie de notre famille. » mais l'on peut dire qu'il en fait aussi partie parce qu'il a beaucoup d'amitié pour nous. Et il t'aime énormément. C'est lui qui m'a aidé lorsque je me suis retrouvé seul, soutenu financièrement et a fait en sorte à ce que je puisse t'élever comme il faut. Ce n'était pas facile. J'étais très jeune et un jeune homme avec un bébé, ce n'est pas évident. C'est Adrien qui m'a aidé. Je l'en suis très reconnaissant. Oui, très reconnaissant. Mais Jules se sent gêné que Damien pose ses questions sur Adrien, parce qu'Adrien fait partie de son secret. Le temps passe, tristement, et Damien a fini son travail. Il le donne aux éditions du Rocher. Il est inquiet parce qu'il ne sait pas ce qu'ils font, vont penser de son travail. C'est son premier travail. Il attend avec anxiété la réponse. Comme il n'a plus rien à faire, il passe son temps à marcher dans les rues. Le Paris des petites rues pittoresques, ou même derrière des immeubles, il y a des hôtels particuliers et des petits jardins. Il passe ses journées à marcher et ça lui fait du bien. Sans travail, seul dans l'appartement, il ne ferait que penser à ses origines et de cela, il ne veut plus. Un après-midi, dans un jardin derrière Notre-Dame, il s'assoit sur un banc. Elle soit à côté de lui un homme qui doit avoir dans les 70 ans, grand, maigre, cheveux blancs, et porte un pardessus beige. Il a un côté distingué. Damien n'ose pas trop le regarder. Ça le gêne qu'un inconnu se soit assis près de lui. L'homme se tourne vers lui et lui dit « J'aime beaucoup ce jardin. Je trouve que c'est très reposant malgré les touristes. Et je trouve bien proportionné à Notre-Dame. Cela donne même l'impression qu'elle est plus grande. » Damien lui dit, « Moi aussi je l'aime, et c'est très beau. Vous habitez le quartier ?»« Non, j'habite boulevard Malesherbes. Je vis avec mon père. » Le vieil homme lui dit, « Je suis écrivain, et cela fait plus de 30 ans que j'écris de très nombreux romans. » Damien lui dit, « Moi aussi j'écris. » Et pas des romans, mais des thèmes historiques. Je suis historien. L'homme lui dit, moi, j'ai écrit de très nombreux romans. Et puis, tout d'un coup, je suis coincé. Je dois écrire un nouveau roman, je ne peux pas. C'est terrible pour un écrivain. J'habite Lyon. Damien lui dit, je ne connais pas. Pourtant, ma famille est d'origine de cette ville. Le vieil homme lui dit, le hasard nous a fait nous rencontrer. Vous êtes, et moi, originaire de cette ville. Damien lui dit, le hasard est étrange. Je m'en rends de plus en plus compte. Des fois, lorsqu'on fait des recherches, c'est terrible. On découvre des choses que l'on ne devrait pas découvrir. Et on est, pour ainsi dire, guidé par une force qui nous dépasse. Le vieil homme lui dit, quelquefois, cela fait peur. J'écris des histoires un peu fantastiques et policières. En ce moment, enfin, j'essaye d'écrire. L'histoire d'un jeune homme qui veut enlever son fils. Pour cela, il faut que mon personnage change d'identité. Mais je ne sais comment faire. Et puis, je ne sais pas. L'histoire ne peut pas intéresse plus tellement parce qu'elle n'avance pas. Mais il faut bien écrire quelque chose. Et vous, Vous écrivez quoi ? Damien lui dit : les différentes mythologies dans le monde pré-chrétien. J'ai fini mon écrit et je suis inquiet parce que je dois présenter mon travail à un éditeur. L'homme lui dit : les éditeurs sont durs et ne pensent qu'au prix littéraire. Les prix littéraires sont nuisibles pour l'édition. Cela empêche les nouveaux auteurs d'être dévoilés, d'être présentés au public. À un moment, ils décident d'aller dans un café. Ils sortent du jardin, traversent le quai et entrent dans un café. C'est un petit café très quelconque. Ça sent l'humidité, la cigarette et le vin. Il y a quelques personnes qui sirotent. Le vieux monsieur dit à Damien : c'est moi qui vous invite. Je vous remercie. Et ils s'assoivent à table, l'un en face de l'autre. Le bistrotet, un petit maigre, cheveux noirs, le visage d'une fuine, va à eux et leur demande ce qu'ils désirent. L'homme demande à Damien : que désirez-vous boire ? Damien lui dit : un jus d'orange. Merci. Alors l'homme dit : la même chose. Et c'est moi qui paye la consommation. Damien lui demande : et pourquoi ? L'homme lui dit : parce que je suis le plus vieux et puis j'ai plus les moyens que vous. Et un quart d'heure plus tard, ils boivent leur jus d'orange. Le vieil homme dit : je me demande si sur l'acte de naissance d'une personne, il y a la date de décès et si on peut prendre la place d'une personne qui est décédée. Damien lui dit : à notre époque, on peut trafiquer tous les documents. Vous avez raison. Damien lui raconte son histoire pour savoir ce qu'il en pense. L'homme lui demande : c'est le sujet d'un roman ? Oui, le vieil homme lui dit. Ça pourrait être une histoire de réincarnation. Mais votre sujet, disons, est plus réaliste. Ça pourrait faire une histoire policière, où il faut trouver une solution réaliste à ce problème. Peut-être avec des papiers falsifiés. Et pourquoi votre personnage changerait d'identité ? Et si l'on change d'identité, c'est pour cacher quelque chose, un passé. Mais quel passé ? Et puis, pourquoi prendre le nom d'une autre personne ? De tout ça, il faut vous poser la question avant d'écrire votre roman. Mais c'est un peu compliqué, votre histoire. Peut-être une histoire d'héritage, on ne sait pas. Il faut connaître beaucoup de choses avant d'écrire un roman. Il faut penser aux personnages, à leur passé, ce qu'ils sont et pourquoi ils vont agir comme ça. Damien lui parle d'un fils qui vivait heureux et qui a appris tout ça. Il ne savait rien de ses origines. Le vieil homme lui dit : peut-être que vous auriez mieux fait de faire un plan avant de commencer cette histoire. Comment allez-vous faire pour résoudre le problème des origines de ces personnages ? Ça ne va pas être facile. Damien lui demande : les personnes, enfin, mais personnellement, que pensez-vous de la découverte de ce jeune homme ? Comment voyez-vous le passé du père et du fils ? Le vieil homme lui dit : peut-être est-ce qu'on a fait tout ça pour lui ? Ces années où le père s'occupait de lui, il aurait pu prendre une nouvelle identité sans son fils. S'il a gardé son fils, cela prouve que peut-être il l'a fait pour être près de son fils. Il a dû avoir un problème avec la mère du petit. C'est peut-être pour ça qu'il a été obligé de changer d'identité. Peut-être que sa compagne ne voulait plus de lui et ne voulait pas qu'il revoie son fils. C'est peut-être pour ça qu'il a pris sa nouvelle identité, pour pouvoir disparaître avec son fils. Damien lui dit : il y a aussi un problème, c'est que le père a pris le nom d'une famille qui est morte. Et le frère de la femme qui est morte en voiture a le même nom que le meilleur ami de ma famille. De la famille, oh là mon Dieu. Le vieil homme est écrivain, réfléchit et lui dit, c'est grâce à son ami qu'il a pu prendre le nom de la famille du mari de sa sœur. Ils se sont peut-être entraidés. Le père avait besoin d'aide pour pouvoir avoir son fils et son ami avait peut-être besoin de lui pour quelque chose. Ils se sont entraidés pour résoudre tous les deux leurs problèmes. Pensez à ce que je pense et dites-vous que dans un roman, tout peut arriver. Dans la vie réelle, c'est autre chose. Votre histoire a un bon début, mais il faut avant de commencer votre roman, trouver le mystère. Le mystère des origines de ces personnages. Vous ne devez pas commencer à écrire si vous ne connaissez pas le mystère des personnages, le secret des personnages, parce qu'autrement, vous allez être coincé, comme vous l'êtes d'ailleurs maintenant. Il faut toujours connaître tout sur ces personnages, faire des fiches de ces personnages. Autrement, on ne peut pas y arriver. Autrement, on fait n'importe quoi. Et il faut qu'il y ait une logique dans l'histoire que l'on écrit. Même dans les histoires fantastiques, il faut une logique. Même si cette logique n'a rien à voir avec la réalité. Damien lui dit, alors le secret commun entre l'ami et le père, c'est qu'ils se sont entraidés et que le père a changé d'identité, c'est pour garder son fils. Mais l'ami du père, que fait-il dans cette histoire? Pourquoi a-t-il aidé son ami? Qu'y a-t-il eu en échange de l'aide qu'il a donnée? Le vieil homme lui dit, peut-être une histoire d'argent, d'héritage. En prenant les noms de cette famille, cela lui a peut-être permis de gagner de l'argent, un héritage. Damien lui demande, une personne qui apprend un secret comme celui-là, que doit-il faire? Le vieil homme lui dit, il doit garder ses explications. Cela n'est pas facile, étant donné qu'il y a beaucoup d'affection pour son père. Il a peur que son père apprenne qu'il croit qu'il ait quelque chose, qu'il ait fait quelque chose de mal et caché ses origines. Cela lui fait mal. Il se dit qu'il aurait mieux fait de ne pas le savoir. Voilà ce que je crois que doit penser son fils. Étant donné qu'ils s'étaient si unis tous les deux, et ceci durant tant de nombreuses années. Non. Il doit se garder de le dire à son père. Puis, sont sortis du café. Ils se sont quittés car le vieil homme doit prendre le train pour rentrer à Lyon. Il est venu à Paris pour une réunion d'auteurs. Et maintenant, il faut qu'il rentre car lui aussi a un problème avec son roman. Un roman qui a commencé et qui ressemble étrangement à celui d'Adrien. Damien le raccompagne jusqu'à la gare de Lyon en taxi. Ils se disent au revoir sur le quai de la gare et l'homme, en donnant sa carte de visite, « Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez m'écrire. et si votre roman est fini, me l'envoyez. Et votre histoire est assez embrouillée. Puis, Adrien l'a quitté. Damien, troublé, entre chez lui. Se dit qu'il a aussi une histoire sordide. Sans nul doute que c'est pour ça que son père ne lui a jamais parlé de sa mère et qu'il n'a pas de photographie de sa mère. Bien entendu, il ne peut pas y avoir de photographie de sa mère étant donné qu'il a changé d'identité. Il ne sait pas s'il en veut à son père d'avoir été enlevé à sa mère. Il ne ressent rien pour sa mère. C'est normal, il ne la connaissait même pas physiquement. Il connaît très bien son père et il ne peut s'empêcher de trouver bon pour lui. Mais tout de même, ce qu'il a fait, parce qu'il pense après ce que lui a dit le vieil homme, quand son père a peut-être, en plus d'avoir enlevé, tué les Villeneuve, oui, de l'avoir enlevé à sa mère, il a peut-être tué les Villeneuve. Il a peut-être fait ça pour qu'ils soient heureux tous les deux. Les jours passent et un jour il reçoit la réponse de l'éditeur qui est satisfait de son travail pour ses recherches très approfondies sur les mythologies et qu'il visite les origines d'après la vie quotidienne des gens. L'éditeur le convoque dans son bureau pour lui faire signer son contrat et lui payer son livre. Il y va un peu intimidé, on lui donne un chèque assez conséquent et on lui dit que le livre servira pour les enseignants et peut-être même les chercheurs. Il est heureux, mais dans ce travail qu'il a, il y a le mystère de ses origines et qu'il ne peut être entièrement heureux. Il se dit que s'il n'avait pas ce mystère de ses origines, il aurait pu dire à son père sa joie d'être édité pour la première fois. Mais il le dit tout de même à son père qui est heureux et décide de lui acheter une voiture. Il lui demande aussi, est-ce que tu veux maintenant te mettre chez toi ? Cette demande le surprend, il est tellement surpris qu'il lui dit « Non, je préfère vivre avec toi. Cela fait plaisir à Jules. » Damien se demande ce que c'est qu'un historien. Il se dit qu'il faut rester neutre, se mettre à la place des gens de l'époque qui savaient ce que l'on ne savait plus, ce que l'on ne sait plus et qui voyaient le monde à leur façon, croyant à des choses qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. On ne doit pas juger, mais expliquer les faits d'après les croyances et les mœurs des gens de cette époque, etc. Surtout ne pas juger d'après nos idées et nos idées présentes et notre savoir. Damien ne pense plus à sa mère comme lorsqu'il se poser des questions, mais c'est quelque chose comme quelque chose qui ne va pas dans son passé. Henri Dutreuil, le compositeur de musique, travaille avec Patrick. Marie pense qu'il le fait trop travailler. Elle le lui dit. Il est fatigué et fragile. Il lui dit « Mais il faut préparer le prochain concert, que la vie d'artiste est comme ça !» Patrick se passionne pour ce qu'il fait, mais se sent fatigué. Henri lui donne ses dernières compositions au fur et à mesure qu'il écrit. Patrick aussi revoit Jeanne. Elle aimerait bien renouer avec lui, mais lui la voyait comme une jeune fille, une apparition, et depuis qu'il l'a vue avec le garçon, c'est devenu une fille comme les autres. Elle l'invite chez elle parce que les parents sont absents. Ils sont tous les deux assis au salon et elle lui dit « C'est dommage que nous nous voyons plus que nous nous sommes éloignés. C'est aussi de ma faute et je le regrette. » Il ne dit rien, il reste distant. Cela attriste Jeanne, car la mère de Jeanne lui a dit « Tu es une idiote, tu t'es comportée comme une idiote. » Tu as raté un bon garçon et qui a de l'avenir. Malheureusement, tu n'es qu'une coureuse. Est-ce que tu veux apprendre le piano maintenant ? Elle lui a dit, oui, je veux bien. Et elle demande à Patrick s'il veut lui aussi avoir des leçons de piano avec elle. Il lui dit, je n'ai plus besoin de leçons. Elle est triste. Cela vous permettra de vous perfectionner ? Et puis, vous pourriez me donner des conseils ? Patrick lui dit, je n'ai plus le temps. Philippe vient voir Marie et Patrick. Il leur dit, je viens féliciter le petit prodige. Ils sont heureux de recevoir Philippe. Philippe voit que Patrick n'a pas changé physiquement, mais qu'il est plus sûr de lui. Marie semble heureuse. Il se dit que même si ce n'est pas son fils, cela n'a aucune importance. Henri vient voir Patrick. Le compositeur trouve Philippe dérangeant. Il empêche Patrick de travailler. Puis, il est celui qui ne voit pas. Si Philippe voit très bien qu'il traite Patrick comme un domestique. Philippe dit à Patrick et Marie ce qu'il pense de ce compositeur qui a soi-disant du génie, qui a des manières désagréables et traite Patrick comme son domestique. Mais Patrick lui dit, il a raison de me faire travailler dur, car si l'on veut arriver à quelque chose de parfait, on est obligé de beaucoup travailler. Philippe lui dit, pas au détriment de la santé. Marie est d'accord avec lui. Puis après 2 jours, il est parti en leur disant qu'il était fatigué, mais qu'il avait été heureux de les voir. Un directeur d'université va voir Damien et lui demande de venir parler de son livre sur la mythologie à une soirée universitaire. Cela démontrera qu'il y a des jeunes qui traitent de ces sujets. Jules est très fier de cette demande. Damien essaye de se préparer pour sa conférence. La conférence a lieu, il est très applaudi. Après, il fait des signatures de son livre. Une jeune fille d'à peu près 20 ans, grande, mince, visage osseux et long, habillée d'un tailleur marine, elle l'a attendue à la sortie de l'université. Elle lui court après. Lui est surpris, elle lui dit, « Ce que vous avez écrit est vraiment formidable. J'aimerais un peu parler avec vous. » Il est gêné, mais n'ose pas lui dire non, car c'est une jeune fille qui semble si gentille. Alors il lui dit, « Je veux bien discuter un moment avec vous. Tenez, si nous allions dans ce café-là, en face de l'université, et ils y vont. » C'est un café décoré 1900. Il y a encore du monde dans le café malgré l'heure tardive. Ils vont s'asseoir tous les deux, l'un en face de l'autre. Damien Fessil signe un serveur, un jeune homme dans les 18 ans, mince, qui est habillé en serveur. Damien demande à la jeune fille, « Que désirez-vous boire ?» Elle lui dit, « Un coca. » Et Damien dit au serveur, « Eh bien, deux coca. » Le serveur se retire pour aller chercher la boisson. Elle lui dit, « J'ai trouvé votre livre passionnant et votre conférence intéressante. » Il ne sait que dire. Elle lui dit, « Je m'appelle Armance Ducret. Je suis étudiante en lettres. » On vient leur apporter la boisson. Elle lui demande, « Parlez-moi de vous. Vous habitez seul, avec quelqu'un ?» Il lui dit, « Je vis chez mon père et nous nous entendons très bien. Vous n'avez pas d'autre famille ?» Non. Et parle de choses et d'autres. Puis, se sont quittés. Elle ne pense plus à elle. Deux jours plus tard, il la croise dans son quartier et la voit souvent. Cela l'énerve. Elle doit être crampon. Il lui dit à peine bonjour, mais elle insiste et l'arrête pour lui parler. Elle lui dit, « J'ai trouvé votre adresse sur Internet. » Il lui demande, « Pourquoi est-ce que vous me suivez ?»« Comme ça. Et puis, j'aimerais bien avoir une relation avec vous. » Il lui dit, « Je ne peux pas. Je suis trop pris. » Elle lui dit, « Moi aussi je suis prise, mais cela ne m'empêche pas que l'on se voit. » Un soir que Damien est au salon avec son père, on sonne à la porte. Son père va ouvrir. Damien entend, « Bonjour, je suis une amie de votre fils. Entrez, mademoiselle. » Il voit entrer son père avec Armance. Il est furieux. Elle lui dit, « Je suis venue vous chercher pour que nous puissions aller voir une pièce, La Reine Morte de Monternan. » Il lui dit furieux, « Je n'ai pas du tout envie de sortir avec vous. Vous n'êtes pas du tout gentil. Je suis venu pour que nous puissions aller au théâtre. » Jules intervient et lui dit, « Tu pourrais bien faire plaisir à cette jeune fille. » Il est furieux et part avec elle. Une fois dehors, il lui dit ce qu'il pense de sa conduite. « Ce n'est pas bien d'aller chercher un jeune homme chez lui. Vous vous comportez très mal, mademoiselle. » Elle lui dit, « Votre comportement n'est pas meilleur. » Il la quitte furieux. Et entre chez son père, lui explique exactement qui est cette personne. Je ne la connais même pas, et elle me court après dans la rue. Son père rit. Damien lui dit, « Ce n'est pas drôle. » Il la revoit encore dans son quartier et lui dit, « Ce n'est pas bien de me suivre, de suivre les hommes comme ça. » c'est dangereux. Elle lui dit, j'aime le danger. Il lui dit, et si je n'étais pas sérieux? Elle lui dit, eh bien, faites comme si vous ne l'étiez pas. Furieux, il la gifle. Un jour, dans un café, il est assis pour boire un café. Tout à coup, il la voit s'approcher de la table. Cela l'énerve. Il ne peut pas sortir sans avoir peur qu'elle ne soit là. Il se lève et sort. Il a besoin de penser. Il ne veut pas se concentrer sur ses pensées à cause d'elle. Un jour qu'il marche dans ses pensées, elle s'approche de lui. Sans réfléchir, il lui dit, vous terminerez comme ma mère. Elle le regarde tellement dur et furieux. Il a le regard tellement dur et furieux. Elle panique et se sauve, traverse sans regarder et se fait renverser par une voiture. Elle est morte. Il est effrayé de ce qu'il a fait et se sauve en courant. En entrant chez lui, il retrouve son père et lui dit ce qu'il a fait. Son père, attristé, lui demande « Tu pensais à ta mère ?»« Oui, je ne comprends pas ce qu'il est arrivé. » Mais c'est plus compliqué que ça. Jules est triste. Il ne sait quoi dire. Pourtant, il faut bien qu'il dise quelque chose à son fils. Et pourquoi pense-t-il à sa mère à son âge, alors qu'enfant, il n'y pensait pas du tout? Ils restent tous les deux sans se parler. Damien a peur de ce qu'il a dit à son père, mais il attend que son père lui dise quelque chose pour lui révéler la vérité. Comme cela, il sera libéré de ce mystère familial. Et puis, il a pitié de son père. Alors, il lui dit, « Oh, et puis, ça n'a pas tellement d'importance. Je n'ai pas connu ma mère. C'est toi qui m'as élevé. J'y pense comme ça. Ça vient comme ça, rien de plus. Les opportunités me font penser à elle. Je ne souffre pas de l'absence de ma mère. Je n'en ai jamais souffert. » Jules le prend dans ses bras et l'embrasse. Il lui dit, « L'absence d'une personne inconnue, c'est difficile à supporter. Mais il le faut. » Damien lui dit, « Bien sûr. Je dois me faire une raison, parce qu'à cause de ça, j'ai créé un accident. Quoi? Que ce ne soit pas de ma faute. Cette fille était insupportable. Elle voulait quasiment me mettre dans son lit. » Son père lui dit, « Tu as bien fait de ne pas chercher à jouer avec elle, parce qu'elle était folle et que tu n'aurais jamais pu t'en débarrasser. » Et la vie reprend. Mais Damien ne peut s'empêcher de penser qu'il a failli avoir une discussion sérieuse sur sa mère et que c'est parti à cause de sa timidité qu'elle n'a pas eu lieu. Pourquoi son père n'a-t-il pas cherché à lui dire la vérité? C'était le moment. Il ne veut rien lui dire. Lui aussi a eu peur que son père parle et même honte. Maintenant, il se trouve dans le même problème. Un problème qui risque de le hanter toute sa vie. Et pourquoi ce mystère? S'il y a un mystère, il y a quelque chose de mauvais. Jules est très inquiet. Il se dit que son fils se pose des questions sur sa mère et qu'il veut savoir ce qui s'est réellement passé. Il se dit qu'il doit peut-être faire des recherches. Il faudrait peut-être parler. Lui parler. Mais lui dire quoi? Il n'y a aucune preuve, aucun papier de la disparition de sa mère. S'il lui montre les papiers de l'accident, il verra que son père est mort et que lui aussi. Il comprendra que son identité n'est pas la sienne, mais c'est celle d'une personne qui est morte. Il demandera pourquoi, etc. Ce sera terrible. Il a déjà posé des questions sur l'accident. Ce n'est pas facile tout ça. Pour se protéger, si son fils apprend la vérité, et qu'il parle, il sera peut-être obligé de fuir et de se cacher pour éviter la police. Et en plus, il va être obligé de prévenir Adrien, qui risque gros. Se cacher de son fils, c'est terrible. Mais que faire? Surtout, tout faire pour ne pas parler de cette affaire. Il écrit à Adrien pour lui dire ce qui se passe. Que son fils cherche à savoir qui était sa mère et ce qui s'est passé. Il est inquiet car il a peur que son fils apprenne la vérité. Il lui dit aussi que son fils lui a demandé quels étaient les vrais rapports qu'ils avaient tous les deux. Adrien est inquiet. Il se dit qu'il sera peut-être obligé d'agir et d'éliminer ces deux-là. Il y a déjà en plus, les papiers qu'il vient de faire, il a peur. Ces faux papiers qui risquent de lui apporter des ennuis, car le franc-maçon risque de le faire chanter, et pour toujours. Maintenant qu'il a une place bien assise et une personnalité importante et respectée, il ne faut pas que tout ça soit détruit simplement à cause d'eux. Il les aime bien. Mais il doit défendre sa vie. Il se dit qu'il faut qu'il réfléchisse pour savoir comment il doit faire pour se défendre d'eux. En attendant, il écrit à Jules et lui crie que ce n'est pas grave que son fils pose des questions sur sa mère. Il peut lui dire que sa mère était partie seule en voiture et qu'elle a eu un accident, rien de plus. Jules, lorsqu'il reçoit la lettre, se dit que c'est plus compliqué que ça. Et puis maintenant, il y a Internet et son fils peut faire des recherches sur les accidents de cette époque et voir s'il y a eu un accident d'un couple au nom de la famille Villeneuve avec un enfant qui avait le même nom que lui et qui sont morts en voiture. Mais aucune femme seule au nom de Villeneuve n'a eu d'accident à part la femme de Jules Villeneuve qui est morte. Avec Internet, il peut avoir des informations de n'importe quoi et cela est très dangereux. On ne peut plus rien cacher. Mais pour le moment, Damien ne lui dit rien. Jules fait tout pour ne pas parler de ça. Lorsqu'il rentre chez lui, il dit qu'il est fatigué et qu'il aimerait bien se détendre un peu. Alors Damien, comme il voit que son père est fatigué, ne veut pas l'ennuyer avec ses questions qui pourraient le fatiguer, le rendre malheureux, parce que ça pourrait lui rappeler des tristes souvenirs. La mort de sa femme, ça doit être quelque chose de dur pour lui, étant donné qu'il est très sentimental. La preuve, tout ce qu'il a fait pour lui. À son travail, Jules s'aperçoit que Mercier le surveille. Il sait qu'à la moindre occasion, il lui fera un croche-pied. Il sait que Mercier sait qu'il n'est pas Villeneuve. Heureusement que le patron est toujours avec lui. Son patron le prend un peu comme son fils qui n'a pas eu. Cela énerve Mercier car il se dit que c'est lui qui devrait prendre la succession. Il a plus de légitimité que lui. Alors Jules fait attention à son travail à cause de Mercier qui le surveille. Cela le met sur les nerfs. Il n'ose pas se plaindre à son patron qui fait déjà beaucoup de pour lui. Il fait aussi de nombreuses heures supplémentaires. Et lorsqu'il rentre le soir, il a peur que son fils lui pose des questions embarrassantes. Cela lui fait des journées où il est sur les nerfs d'une façon constante. Il a son travail Mercier chez lui Damien. Il est sur les nerfs et déprimé. Il ne peut pas se reposer. Alors très tôt le soir, il va s'enfermer dans sa chambre pour essayer de dormir et se détendre. Il dit à son fils qu'il est très fatigué. Damien le comprend. Il se dit que son père, à son travail, a beaucoup de responsabilités. Damien, maintenant, il faut qu'il trouve un sujet de recherche. Il décide de prendre comme sujet la chute de l'Empire romain. Il veut étudier ce problème de plusieurs façons, psychologiquement, moral, social et aussi scientifique. Scientifique parce que les Romains buvaient dans des récipients en plomb et que le plomb dégrade le cerveau. C'est un poison, et puis comme toutes les nations dominantes, il y a une apogée et puis sa disparition. Sa disparition parce qu'un autre empire, une autre idéologie a pris sa place. Pour qu'un peuple puisse être fort, il faut qu'il soit simple et primitif. S'il devient raffiné, c'est le début de sa fin. Pour pouvoir dominer, il ne faut pas se poser de questions morales. Pour dominer, il faut détruire ce qui vous empêche de dominer et ne pas avoir d'idéologie qui risque de l'affaiblir, comme par exemple la morale, et empêcher d'aller de l'avant. Un peuple trop raffiné empêche aussi de dominer. Il ne pense plus qu'à son plaisir et à amasser des richesses. Il ne veut plus faire certaines choses de la vie qui sont essentielles que de travailler d'une façon physique. Il devient feignant et a besoin pour vivre des autres. C'est sa fin pour lui. Aussi un peuple qui ne croit plus en ce qu'il est, c'est-à-dire à la différence qu'il a vis-à-vis des autres peuples, est dominé par les autres peuples. Il faut qu'il croie qu'il est un peuple supérieur aux autres pour dominer les autres. S'il a une idéologie quelconque, religieuse, morale, physique, qui lui dit, philosophique, qui lui dit que les peuples qui sont tous égaux, c'est la fin de ce qu'il est. Il faut se sentir supérieur, et pour se sentir supérieur, il faut absolument se sentir pas comme les autres, c'est-à-dire pas être au milieu des autres comme n'importe quel peuple. L'égalité tue les peuples supérieurs. C'est ce qui s'est passé à Rome. Et puis Rome a trop donné d'égalité aux étrangers qui vivaient chez eux. Ce qui a fait qu'il n'y avait aucune différence entre le Romain d'origine et l'étranger qui vivait à Rome et qui était reconnu romain. Ce qui fait que petit à petit les étrangers ont pris une place importante dans l'armée et le pouvoir. Il y a même eu des empereurs romains qui étaient d'origine étrangère. Rome a été pourrie de l'intérieur et l'ennemi était entré à l'intérieur de Rome. Étant donné que les Romains d'origine étaient devenus égaux au peuple étranger, qui étaient chez eux, il n'y avait plus aucune différence entre les étrangers, et c'est ce qui a perdu Rome. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, dodécaphonique, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.